Bonjour. Aujourd'hui, on aborde un sujet assez pointu, la chirurgie du rachis. On va regarder un peu les options, les différentes interventions et puis surtout ce qui se passe quand la première opération n'a pas fonctionné comme prévu. Le fameux syndrome d'échec de la chirurgie du dos. On s'appuie sur quelques documents, un guide chirurgical et un papier sur les reprises. L'idée, c'est d'y voir un peu plus clair.
Oui, bonjour. C'est vrai que c'est un domaine complexe. En gros, on peut distinguer trois grandes familles d'interventions. D'abord, il y a la libération simple. Là, on enlève ce qui coince le nerf, mais sans mettre d'implant, de matériel.
D'accord, juste libéré.
Voilà. Ensuite, la deuxième grande option, c'est la fusion, l'arthrodèse, comme on dit. Là, l'objectif, c'est de bloquer un ou plusieurs étages de la colonne. On utilise des vis, des tiges, des cages parfois entre les vertèbres. C'est très efficace pour stabiliser, mais l'inconvénient, c'est que ça force un peu sur les étages juste au-dessus ou en dessous.
Et donc la troisième voie, c'est celle qui essaye justement d'éviter ça, en gardant le mouvement.
Exactement, c'est ce qu'on appelle la motion preservation, la préservation du mouvement. On met des implants, mais des implants qui permettent de conserver une certaine mobilité. Ça peut être une prothèse de disque ou d'autres systèmes un peu dynamiques. Le choix va dépendre aussi de comment on aborde la colonne, par devant, par derrière, sur le côté, et puis si on fait une chirurgie ouverte, classique, ou une approche moins invasive, comme l'endoscopie par exemple, ou ce qu'on appelle le MIS.
MIS pour minimalement invasive, c'est ça?
C'est comme vous l'avez mentionné que ça ne veut pas dire qu'il y a eu une faute ou une erreur technique. Pas forcément.
D'accord. C'est plus compliqué que ça.
Bah oui, souvent c'est plusieurs facteurs qui s'en mêlent. Ça peut être une récidive de la hernie, par exemple. Ça arrive dans 5 à 18% des cas quand même. Ou alors la fibrose. C'est du tissu cicatriciel qui se forme autour des nerfs et ça peut coincer à nouveau et ça rend les réopérations plus difficiles.
Ah oui, ça englue un peu les nerfs, c'est ça?
C'est un peu l'idée, oui. Il peut y avoir aussi une instabilité qui reste ou qui apparaît après la chirurgie. Ou alors, si on a fait une fusion, parfois l'os ne prend pas bien. C'est la pseudarthrose. L'arthrodèse ne l'a pas fonctionné.
Et puis, il y a ce fameux syndrome du segment adjacent, l'usure des voisins de la zone bloquée.
Exactement. Ou même une douleur nerveuse, neuropathique, qui persiste si le nerf a été un peu irrité ou abîmé pendant l'histoire. Les signes qui doivent alerter le patient. C'est souvent cette douleur qui revient ou qui ne part jamais vraiment, la sciatique qui continue, des fourmillements, une faiblesse.
Ou cette douleur quand on marche, qui oblige à s'arrêter, la claudication.
Tout à fait, la claudication neurogène. Alors face à tout ça, l'étape vraiment, vraiment clé, avant même d'imaginer une autre chirurgie, c'est de refaire un bilan complet, très rigoureux. On va refaire une IRM, souvent avec injection de produits de contraste pour bien voir la différence entre une hernie qui revient et de la fibrose. Un scanner aussi pour voir l'os, les implants s'il y en a. Des radiodynamiques pour voir si ça bouge trop, s'il y a une instabilité. Et souvent un EMG, un électromyogramme, pour confirmer que le nerf est bien en souffrance active.
Et tout ça, c'est discuté entre plusieurs médecins, j'imagine.
Ah oui, indispensable. Chirurgien, médecin de la douleur, radiologue. Il faut vraiment une analyse collective pour prendre la bonne décision.
Parce que pour proposer une nouvelle opération, il y a une règle d'or.
Laquelle?
Il faut qu'il y ait une concordance parfaite, indiscutable, entre ce que décrit le patient comme douleur, ce qu'on trouve à l'examen, et une lésion mécanique claire et nette sur les images. Une lésion qu'on pense pouvoir régler avec la chirurgie. On ne réopère pas juste pour une douleur un peu partout, sans cause évidente ou juste pour de la fibrose s'il n'y a pas de compression associée.
Heureusement, il n'y a pas que la chirurgie comme réponse. Non, bien sûr. Et c'est même la première chose à essayer. Il y a toute la prise en charge en centre antidouleur, les infiltrations bien ciblées, la rééducation fonctionnelle et capitale, kiné, ostéo. Il y a aussi des techniques comme la décompression neurovertébrale, c'est une sorte de traction douce. Et il ne faut jamais oublier le soutien psychologique. La douleur chronique, ça pèse énormément.
C'est clair. Donc ces approches conservatrices d'abord. Mais si ça ne suffit pas et qu'on a bien identifié le problème mécanique, alors on peut envisager une reprise. Et là, on n'est plus obligé de faire une fusion systématiquement.
Non, c'est ça qui a changé. La fusion, ça reste une option solide, mais on sait qu'elle rigidifie et qu'elle augmente le risque de problèmes sur les étages voisins à long terme. Du coup, on a développé des alternatives qui visent à préserver le mouvement.
Comme ces systèmes dont on entend parler, le TOPS par exemple, ça fait quoi exactement?
Alors, le TOPS, c'est un implant qu'on met à l'arrière. C'est une option pour certains cas de canal lombaire étroit avec un petit glissement de vertèbre. Ça stabilise, mais en autorisant certains mouvements. Il y a aussi l'intraspine. C'est plus comme un petit amortisseur qu'on met entre les lames des vertèbres pour des problèmes un peu moins sévères. Et puis, bien sûr, la prothèse discale. Là, on remplace carrément tout le disque. C'est une super option, mais pour des cas bien précis, souvent des patients plus jeunes avec juste un disque abîmé.
Et on peut utiliser ces techniques avec des approches moins invasives comme l'endoscopie. Vous parliez de l'expertise française là-dessus.
Oui, tout à fait. L'endoscopie, c'est une petite caméra, une incision minime. Ça se développe beaucoup et c'est vrai qu'il y a de très bonnes équipes en France, à Bordeaux notamment, mais ailleurs aussi. D'ailleurs, certaines de ces technologies comme le TOPS ou l'intraspine sont parfois plus disponibles ou utilisées en France qu'ici au Québec. Les délais peuvent aussi être plus courts dans certains centres français spécialisés.
Intéressant. Mais alors, la question du financement se pose, non, pour des soins en France ?
Ah oui, et c'est le gros point noir. La RAMQ couvre très très peu de choses hors Québec pour ce genre de chirurgie élective. Il faut quasi obligatoirement une assurance privée qui couvre spécifiquement ces soins à l'étranger et il faut lire les petites lignes très attentivement. C'est souvent un parcours du combattant au niveau administratif et financier.
D'accord. Donc, on a plus d'options aujourd'hui. Si une première chirurgie a échoué, c'est une bonne nouvelle. Mais si je comprends bien, la clé, c'est pas tellement la technologie dernier cri.
Non, pas seulement. La clé, c'est vraiment l'analyse hyper rigoureuse au départ. Comprendre pourquoi ça n'a pas marché la première fois et être sûr que ce qu'on propose maintenant a une vraie chance de régler ce problème précis chez ce patient-là. L'indication, le bon diagnostic, c'est 90% du travail. La technique vient après.
Ce qui nous laisse avec une question de fond, finalement. Comment on fait pour bien choisir Quichet ? Comment on équilibre l'attrait de ces nouvelles technologies, qui sont prometteuses, c'est vrai, et cette nécessité absolue de bien sélectionner les patients, de ne pas oublier les traitements plus simples et de voir la personne dans sa globalité avec l'aspect psychologique aussi. C'est là tout l'enjeu, non ?